Bonjour à tous. Comme chaque semaine, nous nous retrouvons dans l'émission Rencontre sur Radio Accor avec l'association des Amis des Chemins de Saint-Jacques en Vienne.
Tous les matins, nous prenons le chemin. Tous les matins, nous allons plus loin. Jour après jour, la route nous appelle. C'est la voie de Compostelle.
Je m'appelle Monique. Aujourd'hui, je reçois Louisette, avec laquelle nous allons parler du chemin de Saint-Jacques de Compostelle et plus spécialement de la préparation du chemin. Bonjour Louisette.
Bonjour Monique.
Alors, il me semble que vous avez déjà fait plusieurs fois ce chemin.
Oui, je l'ai fait déjà deux fois et je m'apprête à repartir pour une troisième.
Alors, est-ce que la préparation est toujours la même ?
La préparation n'est pas tout à fait la même, tout au moins que la première fois, puisque la première fois, je suis partie avec un compagnon à quatre pattes, c'était un âne. Et là, la préparation a été très très longue, bien sûr, puisque je ne connaissais des ânes que ce qu'on en disait et non pas la réalité. Mais sinon, la préparation du physique, du sac, oui, c'est à peu près la même. On ne peut pas partir du jour au lendemain sans préparation.
Alors, nous allons commencer plutôt par la préparation, disons physique peut-être. Hein ?
Oui, la préparation physique.
Vous allez un petit peu nous expliquer comment vous y prenez, qu'est-ce que...
Eh bien, la première chose, il faut aimer marcher et apprendre à marcher d'une façon régulière, dans des conditions qui ne sont pas toujours climatiquement parlant excellente, puisqu'on peut rencontrer bien sûr du froid, de la pluie, mais aussi beaucoup de chaleur, donc c'est pas toujours facile. Et il faut surtout et principalement être chaussé, très bien chaussé, à son gré, soit avec des chaussures de randonnée, soit avec des tennis, comme moi-même. Mais ça, c'est un choix personnel et il faut que chacun trouve ce qui lui convient le mieux. C'est ça qui est le plus important à mon avis. Et aussi, la préparation de ses pieds. La préparation des pieds est très importante si on veut ne pas souffrir trop d'ampoules et de petits désagréments de ce goût-là.
Donc vous faites quoi, vous ?
Eh bien, moi, personnellement, je masse mes pieds 15 jours avant de partir. Je masse mes pieds tous les jours, matin et soir, avec une pommade, une crème NOC. Et c'est très important parce que c'est une crème qui endurcit la peau et qui, bien sûr, facilite en même temps le glissement. Mais par contre, en cours de marche, le matin, je mets de la vaseline, tout simplement. Alors, oui. Bien sûr, les chaussettes sont un peu grasses, mais il n'y a pas de point de frottement, ce qui évite les ampoules.
D'accord. Une paire de chaussettes ou deux Quel style de chaussettes
C'est des chaussettes normales. Enfin, moi, j'ai des deux. J'ai des chaussettes double peau.
Oui, double peau. Oui.
Mais j'ai aussi des sockets normales parce que les chaussettes double peau, quand il fait très chaud, c'est un petit peu trop chaud. Donc, mais là encore, c'est comme pour les chaussures. Je pense que c'est à chacun de trouver ce qui lui convient le mieux.
Oui, faire des essais peut-être avant.
Voilà. Et donc, la préparation commence un certain temps avant le vrai départ. Eh bien, je pense qu'il faut compter plusieurs mois pour s'habituer à marcher progressivement de plus en plus longtemps. Et par exemple, on peut commencer par marcher deux fois par semaine. Oui. Et puis après, on passe à trois fois et ensuite à quatre fois. Et en même temps, il faut aussi penser au chargement avec le sac à dos.
Ah oui, très important le sac à dos.
très très important, presque aussi important que les chaussures. Donc le sac à dos, c'est pareil, c'est un peu à chacun de trouver le poids qui lui convient. Parce que si on est trop chargé, bien sûr, c'est très très pénible. Et si on ne l'est pas assez, eh bien, en cours de route, il manque plein de choses. Et ça, on ne peut pas faire demi-tour pour aller le chercher.
Qui est-ce qui a dit que le poids du sac à dos, c'était le poids de ses angoisses ?
Je ne sais pas qui a dit ça, mais comme je n'ai pas eu d'angoisse, mon sac à dos était relativement lourd pour moi, parce que je ne suis pas très grande, il faisait 12 kilos.
Ah, c'est énorme.
Oui,
c'est énorme.
Oui, c'est beaucoup pour un petit bout de bonne femme comme moi, mais il faut croire que je suis costaud. Et la première année avec Grison, c'est lui qui portait le tout. Moi, j'avais simplement la charge de le battre et ça, c'était aussi une bonne gymnastique.
Très physique.
C'est plus fatigant de partir avec un âne que de partir avec simplement son sac à dos. Contrairement à ce qu'on me disait tout le long du chemin, où on me disait « Ah, vous avez de la chance, vous ne portez rien, c'est votre âne qui porte tout ». D'ailleurs, c'était lui qui avait toutes les faveurs du public.
Oui,
les gentillesses, sûrement. Les attentions, une petite pomme par-ci, une petite carotte par-là, un seau d'eau, voilà.
Oui, mais là, c'est un tout autre programme avec un âne.
Oui. Oui.
Et cette fois-ci, pourquoi est-ce que vous partez seul sans l'âne, en fait, je vais dire.
Eh bien, je pars sans l'âne parce que cet âne n'était pas à moi, on me l'avait prêté, et que c'est une lourde charge morale.
Probablement.
Et qu'en cours de route, il était tombé malade à Saint-Jean-Pied-de-Port, et là, j'ai vraiment eu des angoisses. Parce que j'avais très peur qu'il lui arrive quelque chose de catastrophique, ce qui n'a pas été le cas, mais j'ai dû continuer sans lui, puisqu'il était trop malade pour continuer. Et donc, j'ai pris la décision après de partir sans âne, puisque moi, je n'ai pas la possibilité d'en avoir un en moi. Voilà. Donc, c'est vrai que les personnes qui désirent partir avec un animal, quel qu'il soit d'ailleurs, doivent penser qu'en Espagne, l'accueil n'est pas non plus le même pour les animaux que chez nous en France.
Ah oui,
et particulièrement les chiens qui ne sont acceptés dans aucun gîte.
Aucun gîte, oui, ça, oui, on l'avait entendu dire, oui, tout à fait. C'est bien. Alors, quelle date ?
Cette année, le départ va être le 10 avril.
Et fixé ?
C'est fixé, là. Mais j'ai toujours choisi le mois d'avril parce que lorsqu'on part, bien sûr, il ne fait pas encore très chaud, mais les jours rallongent et pour moi, ça, je trouve que c'est très important d'avoir de plus en plus de temps pour marcher, pour prendre son temps, visiter la ville dans laquelle on arrive. Donc, j'aime bien cette période. En plus, on voit l'éclosion de la nature. En arrivant à Compostelle, la traversée de la Meseta, par exemple, au mois d'août, je ne sais pas, mais c'est très, très, très chaud et il n'y a pas d'ombre. Donc, en le passant au mois de mai ou début juin, c'est encore supportable.
Par contre, là, cette année, ça, si je crois, enfin, je crois savoir que ça n'est pas le Camino français que vous allez faire.
Ah non, parce que je l'ai fait deux fois. La première fois, bien sûr, j'étais partie de Poitiers, de chez moi. Puisque je pense qu'un pèlerin, à l'origine, partait de chez lui. Hein. Il ne prenait pas le train ou la voiture pour se rendre à tel ou tel endroit. Donc, il partait de chez lui. Et j'ai voulu, la première fois, partir de chez moi et rattraper la voie de Vézelay. J'ai rattrapé la voie de Vézelay entre Limoges et Périgueux. Et donc, ensuite, bien sûr, j'ai rattrapé le Camino français en Espagne.
D'accord.
La seconde fois, je suis partie du Puy-en-Velay, puisque c'est le chemin historique.
Oui,
et que,
traditionnel bien sûr, par excellence. Quoi.
Voilà, traditionnellement, c'est un des départs principaux, qui lui aussi atterrit sur le Camino français. Donc, j'ai fait deux fois le Camino français. Et là, cette fois-ci, j'ai décidé de faire le chemin, le Camino del Norte, qui est le chemin qui suit la côte espagnole, presque jusqu'à Santiago.
D'accord. Et la côte complète ou alors vous prenez, vous bifurquez par le chemin primitif après ou pas ?
Non. La côte complète, le Camino del Norte.
Le Camino del Norte. Très bien. Donc, le départ au printemps.
Oui, en bonne condition.
En bonne condition physique. Parce Donc, si je comprends bien, la préparation est commencée là.
Ah oui, oui, là, l'entraînement est commencé. Je commence à marcher régulièrement. Et en chargeant progressivement aussi le sac à dos. C'est-à-dire qu'on commence par mettre 2 ou 3 kilos et puis progressivement. Alors ça, je fais un chargement avec des bouteilles d'eau que je remplis plus ou moins. Et quand par hasard je l'ai trop chargé, ça me permet de les vider en cours de route pour trouver le bon équilibre. Ne pas se blesser. Ne pas se blesser pendant l'entraînement, c'est important aussi pour pouvoir partir en bon état.
Absolument. Oui, c'est ça. Il ne faut pas non plus se surentraîner.
Voilà, il ne faut pas se surentraîner.
Oui, il faut faire ça.
Voilà, essayer de trouver le juste milieu.
Très progressivement. Mais oui, il n'est peut-être pas utile non plus d'en arriver à marcher, avant de partir, je veux dire, à marcher tous les jours 25 km.
Ah non, 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 bien sûr. Ah non, bien sûr que non. Bon, bien sûr, on va essayer de marcher ou 25 ou 30 km une fois par-ci, par-là, pour voir notre état de résistance, l'état des pieds au bout de ce temps-là. Mais il n'est pas nécessaire, bien sûr, de marcher tous les jours.
Oui, parce qu'il ne faut pas arriver... Il ne faut pas partir fatigué quand même.
Il ne faut pas partir fatigué, il faut partir en bonne forme.
Tout à fait.
Mais pas en super forme. Parce que c'est toujours là qu'il y a... Ben, en super forme, c'est quand on est tellement bien qu'on ne mesure pas toujours ce qu'on fait. Et parfois, eh ben, il peut arriver des accidents, comme moi, ça m'est arrivé. J'ai eu une tendinite parce que j'avais marché beaucoup trop vite, parce que j'étais tellement en forme que je ne sentais pas la fatigue. Et il m'est arrivé, la deuxième année, une fracture de fatigue au pied. Et ça, c'est pareil, ça m'est arrivé à un moment où j'étais vraiment en super forme.
Vous faisiez quoi ? Trop du chemin, trop de longueur ? Vous alliez trop vite ?
Trop vite, oui.
Marchez trop vite ?
Oui, 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 marchez trop vite.
Quelle moyenne faites-vous par jour au niveau des kilomètres ?
Eh bien, c'est variable. Les premières étapes, j'ai toujours essayé de les faire pas très longues, c'est-à-dire de ne pas dépasser 20 km. Oui. Et puis après, progressivement, et puis il y a des fois où on ne sait pas pourquoi, on marche plus ou moins. Donc, la première année, ça a été entre 20 et 40 km par jour. Les 40 km, je dois avouer que je ne les ai pas fait très souvent.
Oui, oui, ça fait
parce
ça
que
commence
c'est un
à être
peu beaucoup. Oui,
un petit peu beaucoup.
Mais c'est vrai que entre 25 et 30 km, c'est bien.
C'est une bonne moyenne. Quoi,
voilà.
Tout à
voilà.
fait. Hein. Vous écoutez l'émission Rencontre sur Radio Accor. Aujourd'hui, je reçois Louisette qui nous parle de la préparation du chemin. Alors, Louisette, maintenant. Nous allons peut-être parler de vos motivations et puis aussi de votre préparation un petit peu plus spirituelle, morale.
Oui, oui. Alors ça, la motivation, c'est assez étrange parce que c'est la lecture d'un livre de Jacques Louteau. Il est un beau chemin semé d'épines et d'étoiles. Où il raconte son voyage à Compostelle avec un âne. Et là, quand j'ai fermé le livre, j'ai dit « ça, je vais le faire ». Et à partir de là, bien sûr, ça a été le début de l'aventure. Mais il y a aussi quand même je vais dire spirituel dans le sens esprit. Je trouve que le chemin est un espace de liberté intellectuelle où on laisse vagabonder son esprit, où aussi il y a énormément de rencontres avec des gens de tous horizons et des gens dont on ne sait rien. Et ça, c'est très important parce qu'on parle librement de tout, de rien. La religion, pour certains, est très présente, pour d'autres, pas du tout. Mais il y a quand même cette recherche de spiritualité dans le sens où on cherche à se retrouver soi-même. Chose qu'on ne fait pas régulièrement puisque souvent on est débordé par le temps qui manque et les activités diverses. Et là, c'est un temps qu'on se donne à soi-même pour peut-être approfondir certaines questions qu'on se pose sur le sens de la vie, sur le sens de l'amitié, sur le sens de ce qu'on est capable de donner. Et puis aussi, peut-être qu'on cherche ses limites. Ses limites, la solitude, eh bien, bien sûr, je marche seule, mais je dis que je ne suis jamais seule, puisque je rencontre, nous rencontrons tous les pèlerins sur le chemin des tas de personnes avec qui les échanges sont toujours très enrichissants. Et les instants, les heures où on marche seul, ce sont aussi des heures où là on se retrouve avec soi-même, donc on est deux quand même, et ça c'est très important. Mais marcher seul, c'est aussi sur le plan physique la possibilité de marcher à son rythme sans être obligé de calquer son pied, son pas sur l'autre. Et en plus, le fait d'être seul ouvre pour les autres un espace où ils se sentent accueillis, puisque là, étant tout seul, les gens viennent vers vous. Et soi-même, lorsqu'on est seul, bien sûr, on a besoin d'échanger et on va plus facilement vers les autres. Voilà.
Par rapport aux autres chemins, puisque vous en êtes, vous allez faire votre troisième chemin, par rapport aux autres, est-ce que vous avez pensé à quelque chose de particulier? Est-ce que vous recherchez encore autre chose que ce que vous avez trouvé?
Rechercher autre chose, non. Là, maintenant, je vais dire que l'envie de marcher sur le chemin pour les rencontres, pour aussi me retrouver moi-même. Mais je me sens moins perdue qu'au départ, puisque l'habitude aidant, voilà. Mais, je n'ai pas de choix précis de chemin. Simplement, je n'aime pas refaire 36 fois la même chose. Et ça permet de voir des paysages tellement différents, des gens tellement différents, que voilà. Et puis, c'est peut-être aussi, on attrape un petit virus quand on marche sur le chemin. Ce n'est pas le virus de la grippe, mais c'est le virus du camino, du chemin qui nous mène vers Compostelle. Parce qu'il y a quand même, on ne perd pas de vue ce but. La grande angoisse, c'est de ne pas arriver au bout quand on a décidé d'y aller.
Et oui, de se retrouver avec un problème, même physique en fait, oui. Tout à fait. Mais les deux premiers chemins vous ont apporté sûrement beaucoup de choses. Ils ne vous ont pas, vous n'êtes pas. On dit toujours, on ne revient jamais comme on est parti.
C'est vrai, parce que la première fois que je suis partie avec Grison, mon petit âne, je suis partie randonneuse. Je suis partie pour marcher avec l'âne, le plaisir de la découverte, de l'aventure. Et puis, insensiblement, sans me rendre compte, au fil du temps, sur le chemin, je crois que je suis devenue pèlerin, je ne sais pas à quel moment, mais je suis effectivement arrivée à Santiago pèlerine. Et lorsque je suis revenue, je n'avais plus cette âme de randonneur qui est totalement axée sur le sport, alors que là, c'est axé, bien sûr, en marche, mais quand même, cette spiritualité est toujours présente.
Ça vient surtout des rencontres que l'on fait, je pense, oui. Ce côté-là. Hein.
Oui, les rencontres, et puis le fait de prendre le temps de réfléchir à des tas de choses auxquelles on n'a jamais le temps de réfléchir dans la vie courante. J'ai l'impression, lorsque je suis sur le chemin, c'est comme si j'étais dans une bulle. Je suis coupée du quotidien, des ennuis courants, de la vie de chaque jour, les factures, les rendez-vous, les ennuis, la voiture, la radio, les journaux.
La radio, les journaux.
Là, c'est un espace clos, oui. Tout en étant très ouvert. Mais le quotidien n'existe plus et ça, c'est extraordinaire. C'est une liberté, vraiment une liberté totale.
On vit pour soi, mais avec les autres malgré tout.
Voilà. on vit pour soi, mais par choix d'abord.
Oui.
Et puis on vit librement. C'est, il y a pas d'impératif. Si un jour il m'est arrivé une fois d'être fatigué, j'ai fait 5 km dans ma journée.
Oui, tout à fait. Rien... Vous vous arrêtez quand vous voulez.
Voilà. L'important c'est de trouver un gîte. Mais
oui.
Voilà.
Oui, c'est tenu qu'à ça.
Ça ne tient qu'à ça.
Oui, oui, tout à fait. Donc, j'ai l'impression que vous allez continuer longtemps comme ça.
Eh bien, je ne sais pas. Si je trouve un traitement contre ce virus, ah, ben, on va dire que peut-être là, je serai le traitement qui arrêtera la maladie. Si on peut dire que ce soit une maladie, non. Je fais un petit peu d'humour. Mais c'est vrai que j'ai vraiment envie de repartir. Vraiment.
Mais je crois que on est tous pareils. Hein. Je crois que beaucoup de gens attrapent ce virus. Hein.
Oui.
Je ne sais pas si c'est à Santiago qu'il se développe, mais et votre premier chemin, vous m'aviez raconté une petite chose là. Votre premier chemin, quand vous êtes arrivé à Santiago, qu'est-ce qui s'est passé?
Eh bien, la première minute, c'est l'explosion de bonheur, même s'il pleuvait à plein temps. Enfin, on touche le but, on a réalisé son rêve. Et puis, dans la minute suivante, c'est un coup de déprime, parce que ben justement, on a réalisé son rêve, mais ça y est, c'est fichu, quoi, c'est fini. Le rêve, il est terminé. Et là, je n'acceptais pas ça. Je n'acceptais pas que ce rêve soit terminé. Et je me suis dit, mais c'est trop bête. J'aurais pu repartir dans l'autre sens à pied et rentrer à pied. Mais bon, le temps me manquait. Et là, sur place, j'ai décidé, l'année prochaine, je repartirai. Et je ferai l'aller et le retour. Et l'année prochaine, je repartirai, c'est sûr.
Donc, je crois que ça va être notre conclusion sur ces dernières bonnes paroles de Louisette. Nous allons donc vous dire à la semaine prochaine pour une autre rencontre avec d'autres témoins du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. Merci Louisette, au revoir et surtout bon chemin pour 2010.
Tous les matins, nous prenons le chemin. Tous les matins, nous...